Jules Verne, L'île mystérieuse, chapitre 11. Gédéon Spilett prit la boîte. Il l'ouvrit. Elle contenait environ 200 grains d'une poudre blanche, dont il porta quelques particules à ses lèvres. L'extrême amertume de cette substance ne pouvait le tromper. C'était bien le précieux alcaloïde du quinquina, l'antipériodique par excellence. Il fallait sans hésiter administrer cette poudre à Harbert. Comment elle se trouvait là? On le discuterait plus tard. « Du café ?» demanda Gédéon Spilett. Quelques instants après, Nab apportait une tasse de l'infusion tiède. Gédéon Spilett y jeta environ 18 grains de la quinine, et l'on parvint à faire boire cette mixture à Harbert. Il était temps encore, car le troisième accès de la fièvre pernicieuse ne s'était pas encore manifesté. Et qu'il soit permis d'ajouter, il ne devait pas revenir. D'ailleurs, il faut le dire aussi, tous avaient repris espoir. L'influence mystérieuse s'était de nouveau exercée, et dans un moment suprême, quand on désespérait d'elle. Au bout de quelques heures, Harbert reposait plus paisiblement. Les colons purent causer alors de cet incident. L'intervention de l'inconnu était plus évidente que jamais. Mais comment avait-il pu pénétrer pendant la nuit jusque dans Granite House? C'était absolument inexplicable. Et en vérité, la façon dont procédait le génie de l'île était non moins étrange que le génie lui-même. Durant cette journée, et de 3 heures en 3 heures environ, le sulfate de quinine fut administré à Harbert. Harbert, dès le lendemain, éprouvait une certaine amélioration. Certes, il n'était pas guéri, et les fièvres intermittentes sont sujettes à de fréquentes et dangereuses récidives, mais les soins ne lui manquèrent pas. Et puis le spécifique était là, et non loin sans doute, celui qui l'avait apporté. Enfin, un immense espoir revint au cœur de tous. Cet espoir ne fut pas trompé. 10 jours après, le 20 décembre, Harbert entrait en convalescence. Il était faible encore, et une diète sévère lui avait été imposée, mais aucun accès n'était revenu. Et puis, le docile enfant se soumettait si volontiers à toutes les prescriptions qu'on lui imposait. Il avait tant envie de guérir. Pencroff était comme un homme qu'on a retiré du fond d'un abîme. Il avait des crises de joie qui tenaient du délire. Après que le moment du troisième accès eût été passé, il avait serré le reporter dans ses bras à l'étouffer. Depuis lors, il ne l'appela plus que le docteur Spilett. Restait à découvrir le vrai docteur. « On le découvrira, » répétait le marin. Et certes, cet homme, quel qu'il fût, devait s'attendre à quelque rude embrassade du digne Pencroff. Le mois de décembre se termina, et avec lui cette année 1867, pendant laquelle les colons de l'île Lincoln venaient d'être si durement éprouvés. Ils entrèrent dans l'année 1868 avec un temps magnifique, une chaleur superbe, une température tropicale, que la brise de mer venait heureusement rafraîchir. Harbert renaissait, et de son lit, placé près d'une des fenêtres de Granite House, il humait cet air salubre, chargé d'émanations salines qui lui rendaient la santé. Il commençait à manger, et Dieu sait quel bon petit plat, léger et savoureux, lui préparait Nab. C'était à donner envie d'avoir été mourant, disait Pencroff. Pendant toute cette période, les convicts ne s'étaient pas montrés une seule fois aux environs de Granite House. D'Ayrton, point de nouvelles. Et si l'ingénieur et Harbert conservaient encore quelque espoir de le retrouver, leurs compagnons ne mettaient plus en doute que le malheureux n'eût succombé. Toutefois, ces incertitudes ne pouvaient durer. Et dès que le jeune garçon serait valide, l'expédition, dont le résultat devait être si important, serait entreprise. Mais il fallait attendre un mois peut-être, car ce ne serait pas trop de toutes les forces de la colonie pour avoir raison des convicts. Du reste, Harbert allait de mieux en mieux. La congestion du foie avait disparu. et les blessures pouvaient être considérées comme cicatrisées définitivement. Pendant ce mois de janvier, d'importants travaux furent faits au plateau de Grande-Vue. Mais ils consistèrent uniquement à sauver ce qui pouvait l'être des récoltes dévastées, soit en blé, soit en légumes. Les graines et les plants furent recueillis, de manière à fournir une nouvelle moisson pour la demi-saison prochaine. Quant à relever les bâtiments de la basse-cour, le moulin, les écuries, Cyrus Smith préféra attendre. Tandis que ses compagnons et lui seraient à la poursuite des convicts, ceux-ci pourraient bien rendre une nouvelle visite au plateau. Et il ne fallait pas leur donner sujet de reprendre leur métier de pillard et d'incendiaire. Quand on aurait purgé l'île de ces malfaiteurs, on verrait à réédifier. Le jeune convalescent avait commencé à se lever dans la seconde quinzaine du mois de janvier. D'abord une heure par jour, puis deux, puis trois. Les forces lui revenaient à vue d'œil, tant sa constitution était vigoureuse. Il avait 18 ans alors. Il était grand et promettait de devenir un homme de noble et belle prestance. À partir de ce moment, sa convalescence, tout en exigeant encore quelques soins, et le docteur Spilett se montrait fort sévère, marcha régulièrement. Vers la fin du mois, Harbert parcourait déjà le plateau de Grande-Vue et les grèves. Quelques bains de mer qu'il prit en compagnie de Pencroff et de Nab lui firent le plus grand bien. Cyrus Smith crut pouvoir d'ores et déjà indiquer le jour du départ, qui fut fixé au 15 février prochain. Les nuits, très claires à cette époque de l'année, seraient propices aux recherches qu'il s'agissait de faire sur toute l'île. Les préparatifs exigés par cette exploration furent donc commencés, et ils devaient être importants, car les colons s'étaient jurés de ne point rentrer à Granite House avant que leur double but eût été atteint. D'une part, détruire les convicts et retrouver Ayrton, s'il vivait encore. De l'autre, découvrir celui qui présidait si efficacement aux destinées de la colonie. De l'île Lincoln, les colons connaissaient à fond toute la côte orientale, depuis le cap Griffe jusqu'au cap Mandibule, les vastes marais d'État d'Horn, les environs du lac Grant, les bois de Jacamar, compris entre la route du Corral et la Mercy, les cours de la Mercy et du Creek Rouge, et enfin les contreforts du Mont Franklin, entre lesquels avait été établi le Corral. Ils avaient exploré, mais d'une manière imparfaite seulement, le vaste littoral de la baie Washington, depuis le cap Griffe, jusqu'au promontoire du Reptile, la lisière forestière et marécageuse de la côte ouest, et ses interminables dunes, qui finissaient à la gueule entrouverte du golfe du Requin. Mais ils n'avaient reconnu en aucune façon les larges portions boisées qui couvraient la presqu'île Serpentine, toute la droite de la Mercy, la rive gauche de la rivière de la Chute, et l'enchevêtrement de ces contreforts et de ces contre-vallées qui supportaient les trois quarts de la base du Mont Franklin à l'ouest, au nord et à l'est, là où tant de retraites profondes existaient sans doute. Par conséquent, plusieurs milliers d'acres de l'île avaient encore échappé à leurs investigations. Il fut donc décidé que l'expédition se porterait à travers le Far West, de manière à englober toute la partie située sur la droite de la Mercy. Peut-être eût-il mieux valu se diriger d'abord sur le Corral, où l'on devait craindre que les convicts ne se fussent de nouveau réfugiés, soit pour le piller, soit pour s'y installer. Mais où la dévastation du Corral était un fait accompli maintenant, et il était trop tard pour l'empêcher, où les convicts avaient eu intérêt à s'y retrancher, et il serait toujours temps d'aller les relancer dans leur retraite. Donc, après discussion, le premier plan fut maintenu, et les colons résolurent de gagner à travers bois le promontoire du Reptile. Ils chemineraient à la hache, et jetteraient ainsi le premier tracé d'une route qui mettrait en communication Granite House et l'extrémité de la presqu'île, sur une longueur de 16 à 17 milles. Le chariot était en parfait état. Les onagas, bien reposés, pourraient vivre une longue traite. Vivres, effets de campement, cuisine portative, ustensiles divers furent chargés sur le chariot, ainsi que les armes et les munitions choisies avec soin dans l'arsenal, maintenant si complet, de Granite House. Mais il ne fallait pas oublier que les convicts couraient peut-être dans les bois, et qu'au milieu de ces épaisses forêts, un coup de fusil était vite tiré et reçu. De là, nécessité pour la petite troupe des colons de rester compacte et de ne se diviser sous aucun prétexte. Il fut également décidé que personne ne resterait à Granite House. Top et Jup, eux-mêmes, devaient faire partie de l'expédition. L'inaccessible demeure pouvait se garder toute seule. Le 14 février, veille du départ, était un dimanche. Il fut consacré tout entier au repos et sanctifié par les actions de grâce que les colons adressèrent au Créateur. Harbert, entièrement guéri, mais un peu faible encore, aurait une place réservée sur le chariot. Le lendemain, au point du jour, Cyrus Smith prit les mesures nécessaires pour mettre Granite House à l'abri de toute invasion. Les échelles qui servaient autrefois à l'ascension furent apportées aux cheminées et profondément enterrées dans le sable, de manière qu'elles pussent servir au retour, car le tambour de l'ascenseur fut démonté, et il ne resta plus rien de l'appareil. Pencroff resta le dernier dans Granite House pour achever cette besogne, et il en redescendit au moyen d'une corde, dont le double était maintenu en bas, et qui, une fois ramené au sol, ne laissa plus subsister aucune communication entre le palier supérieur et la grève. Le temps était magnifique. « Une chaude journée qui se prépare, » dit joyeusement le reporter. « Bah, docteur Spilett, » répondit Pencroff. « Nous cheminerons à l'abri des arbres, et nous n'apercevrons même pas le soleil. »« En route, » dit l'ingénieur. Le chariot attendait sur le rivage, devant les cheminées. Le reporter avait exigé qu'Harbert y prît place, au moins pendant les premières heures du voyage, et le jeune garçon dut se soumettre aux prescriptions de son médecin. Nab se mit en tête des Onaggas. Cyrus Smith, le reporter et le marin prirent les devants. Top gambadait d'un air joyeux. Harbert avait offert une place à Jup dans son véhicule, et Jup avait accepté sans façon. Le moment du départ était arrivé, et la petite troupe se mit en marche. Le chariot tourna d'abord l'angle de l'embouchure, puis, après avoir remonté pendant un mille la rive gauche de la Mercy, il traversa le pont au bout duquel s'amorçait la route de Port-Ballon. Et là, les explorateurs, laissant cette route sur leur gauche, commencèrent à s'enfoncer sous le couvert de ces immenses bois qui formaient la région du Far West. Pendant les deux premiers milles, les arbres largement espacés permirent au chariot de circuler librement. De temps en temps, il fallait trancher quelques lianes et des forêts de broussailles, mais aucun obstacle sérieux n'arrêta la marche des colons. L'épaisse ramure des arbres entretenait une ombre fraîche sur le sol. Déodars, douglas, casuarinas, banksia, gommiers, dragonniers et autres essences déjà reconnues se succédaient au-delà des limites du regard. Le monde des oiseaux habituels à l'île s'y retrouvait au complet. Tétras, jacamars, faisans, loris et toute la famille babillarde des cacaotesses, perruches et perroquets. Agoutis, kangourous, cabiais filaient entre les herbes, et tout cela rappelait aux colons les premières excursions qu'ils avaient faites à leur arrivée sur l'île. Toutefois, fit observer Cyrus Smith, je remarque que ces animaux, quadrupèdes et volatiles, sont plus craintifs qu'autrefois. Ces bois ont donc été récemment parcourus par les convicts, dont nous devons retrouver certainement des traces. Et en effet, en maintes endroits, on put reconnaître le passage plus ou moins récent d'une troupe d'hommes. Ici, des brisées faites aux arbres, peut-être dans le but de jalonner le chemin. Là, des cendres d'un foyer éteint, et des empreintes de pas que certaines portions glaiseuses du sol avaient conservées. Mais en somme, rien qui parut appartenir à un campement définitif. L'ingénieur avait recommandé à ses compagnons de s'abstenir de chasser. Les détonations des armes à feu auraient pu donner l'éveil aux convicts, qui rôdaient peut-être dans la forêt. D'ailleurs, les chasseurs auraient nécessairement été entraînés à quelque distance du chariot, et il était sévèrement interdit de marcher isolément. Dans la seconde partie de la journée, à 6 000 environ de Granite House, la circulation devint assez difficile. Afin de passer certains fourrés, il fallut abattre des arbres et faire un chemin. Avant de s'y engager, Cyrus Smith avait soin d'envoyer dans ses épais taillis Top et Jup, qui accomplissaient consciencieusement leur mandat. Et quand le chien et Laurent revenaient sans avoir rien signalé, c'est qu'il n'y avait rien à craindre, ni de la part des convicts, ni de la part des fauves. Deux sortes d'individus du règne animal que leurs féroces instincts mettaient au même niveau. Le soir de cette première journée, les colons campèrent à 9 000 environ de Granite House, sur le bord d'un petit affluent de la Mercy, dont ils ignoraient l'existence, et qui devait se rattacher au système hydrographique auquel ce sol devait son étonnante fertilité. On soupa copieusement, car l'appétit des colons était fortement aiguisé, et les mesures furent prises pour que la nuit se passât sans encombre. Si l'ingénieur n'avait eu affaire qu'à des animaux féroces, jaguars ou autres, il eut simplement allumé des feux autour de son campement, ce qui eût suffi à le défendre. Mais les convicts, eux, eussent été plutôt attirés qu'arrêtés par ces flammes, et mieux valait dans ce cas s'entourer de profondes ténèbres. La surveillance fut d'ailleurs sévèrement organisée. Deux des colons durent veiller ensemble, et de 2 heures en 2 heures, il était convenu qu'ils seraient relevés par leurs camarades. Or, comme malgré ses réclamations, Harbert fut dispensé de garde, Pencroff et Gédéon Spilett d'une part, l'ingénieur et Nab de l'autre, montèrent la garde à tour de rôle aux approches du campement. Du reste, il y eut à peine quelques heures de nuit. L'obscurité était due plutôt à l'épaisseur des ramures qu'à la disparition du soleil. Le silence fut à peine troublé par de rauques hurlements de jaguars et des ricanements de singes qui semblaient agacer particulièrement Maître Jup. La nuit se passa sans incident, et le lendemain, 16 février, la marche plutôt lente que pénible fut reprise à travers la forêt. Ce jour-là, on ne put franchir que 6 000, car à chaque instant, il fallait se frayer une route à la hache. Véritable settler, les colons épargnaient les grands et beaux arbres, dont l'abattage d'ailleurs leur eût coûté d'énormes fatigues, et ils sacrifiaient les petits. Mais il en résultait que la route prenait une direction peu rectiligne et s'allongeait de nombreux détours. Pendant cette journée, Harbert découvrit des essences nouvelles, dont la présence n'avait pas encore été signalée dans l'île, telles que des fougères arborescentes, avec palmes retombantes, qui semblaient s'épancher comme les eaux d'une vasque. Des caroubiers, dont les onagas broutèrent avec avidité les longues gousses, et qui fournirent des pulpes sucrées d'un goût excellent. Là, les colons retrouvèrent aussi de magnifiques kauris, disposés par groupes, et dont les troncs cylindriques, couronnés d'un cône de verdure, s'élevaient à une hauteur de 200 pieds. C'étaient bien là ces arbres rois de la Nouvelle-Zélande, aussi célèbres que les cèdres du Liban. Quant à la faune, elle ne présenta pas d'autres échantillons que ceux dont les chasseurs avaient eu connaissance jusqu'alors. Cependant, ils entrevirent, mais sans pouvoir l'approcher, un couple de ces grands oiseaux qui sont particuliers à l'Australie, sorte de casoar, que l'on nomme émeux, et qui, hauts de 5 pieds et bruns de plumage, appartiennent à l'ordre des échassiers. Top s'élança après eux de toute la vitesse de ses 4 pattes, mais les casoars le distancèrent aisément, tant leur rapidité était prodigieuse. Quant aux traces laissées par les convicts dans la forêt, on en releva quelques-unes encore. Près d'un feu qui paraissait avoir été récemment éteint, les colons remarquèrent des empreintes qui furent observées avec une extrême attention. En les mesurant l'une après l'autre, suivant leur longueur et leur largeur, on retrouva aisément la trace des pieds de 5 hommes. Les 5 convicts avaient évidemment campé en cet endroit. Mais, et c'était là l'objet d'un examen si minutieux, on ne put découvrir une 6e empreinte, qui dans ce cas eût été celle du pied d'Ayrton. Ayrton n'était pas avec eux, dit Harbert. Non, répondit Pencroff. Et s'il n'était pas avec eux, c'est que ces misérables l'avaient déjà tué. Mais ces gueux-là n'ont donc pas une tanière où on puisse aller les traquer comme les tigres? Non, répondit le reporter. Il est plus probable qu'ils vont à l'aventure, Et c'est leur intérêt d'errer ainsi jusqu'au moment où ils seront les maîtres de l'île. « Les maîtres de l'île ! » s'écria le marin. « Les maîtres de l'île ! » répéta-t-il. Et sa voix était étranglée comme si un poignet de fer lui saisit à la gorge. Puis, d'un ton plus calme, « Savez-vous, monsieur Cyrus ? » dit-il. « Quelle est la balle que j'ai fourrée dans mon fusil ?»« Non, Pencroff. » C'est la balle qui a traversé la poitrine d'Harbert. Et je vous promets que celle-là ne manquera pas son but. Mais ces justes représailles ne pouvaient rendre la vie à Ayrton. Et de cet examen des empreintes laissées sur le sol, on dut, hélas, conclure qu'il n'y avait plus à conserver aucun espoir de jamais le revoir. Ce soir-là, le campement fut établi à 14 milles de Granite House. Et Cyrus Smith estima qu'il ne devait pas être à plus de 5 milles du promontoire du reptile. Et en effet, le lendemain, l'extrémité de la presqu'île était atteinte, et la forêt traversée sur toute sa longueur. Mais aucun indice n'avait permis de trouver la retraite où s'étaient réfugiés les convicts, ni celle, non moins secrète, qui donnait asile aux mystérieux inconnus.